Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le numérique, arme de Moscou contre l'ordre international. Depuis quelques années, les Russes figurent parmi les grands guerriers de l'information aux côtés de la Chine et des États-Unis. Depuis le conflit en Ukraine, la Russie multiplie les opérations sur Internet et les réseaux sociaux. Jusqu'où ? Avec quels résultats ? Et surtout, comment les autres pays se défendent-ils ? Eh bien, des réponses avec mon invitée, Christine Dugoin-Clément, est chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne. Elle vient de publier aux Presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos ». Bonjour Christine Dugoin-Clément.
Bonjour.
Allez, on va rentrer dans les définitions pour cadrer le sujet. C'est quoi ce que vous nous dites dans le livre « La guerre hybride » ?
La guerre hybride, c'est un terme qui a fait débat. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire la guerre, de mener un conflit. On pense forcément à tout ce qui va être conflit armé, ce qu'on voit en Ukraine, avec de l'artillerie, des chars, etc. Mais il y a d'autres façons de le faire pour affaiblir votre adversaire. Et dans ces approches-là, il y aura une approche économique, par exemple, en affaiblissant sa puissance économique. Il y aura une approche informationnelle et cognitive, en faisant changer ce à quoi les gens croient, ce qu'ils pensent être la réalité pour changer leur comportement.
Alors, est-ce que c'est le terme que vous utilisez dans ce livre de Maskirovka, ce que je prononce mal, c'est l'art de la désinformation en Russie,
c'est l'art de la déception, précisément.
Ah oui.
La Maskirovka, c'est un concept alors, qui a maintenant fait beaucoup d'enfants. Hein. C'est devenu une famille très nombreuse. Mais à la base, c'est un concept qui est né à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est comment est-ce qu'on va faire de la déception, de la dissimulation, comment on va tromper son ennemi. La déception, c'est pas simplement de décevoir au cas particulier.
Oui,
c'est vraiment toute cette action-là. Et ça veut, c'est pensé en plusieurs dimensions. C'est-à-dire, on va pouvoir le jouer sur un niveau politique, sur un niveau militaire, sur un niveau économique et individuel. Donc, comment est-ce qu'on peut le penser? Et le schéma, on voit un peu comme un Rubik's Cube, si vous voulez, donc le jeu hein, qui est connu, où vous pensez en plusieurs dimensions et avec plusieurs facettes, et vous allez pouvoir les articuler de manière différente en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé.
Et cette Maskirovka, hein, je prononce peut-être mal, elle a un peu disparu au fil des années 90-2000, et est-ce qu'elle réapparaît? Est-ce que son grand fait d'armes, c'est l'élection, la première élection de Trump en 2016?
Au-delà de la Maskirovka, donc cette art de la déception, il y a eu plein de travaux qui ont été menés, notamment en Russie. On va vous parler, par exemple, des mesures actives qu'on a eues pendant la guerre froide, où des services secrets, type le KGB, menaient des actions contre l'Ouest, puisqu'on avait cet affrontement entre deux blocs.
Ouais.
Donc, qui pouvaient aller jusqu'à, par exemple, créer de faux journaux, des copies de journaux qu'on allait distribuer dans les rues. On en a eu d'autres, par exemple, sur l'origine du sida, qui d'ailleurs est connu comme étant un très gros fait d'armes du KGB, qui est une opération qui s'appelle Infection, et qui est encore aujourd'hui un modèle du genre. Mais au-delà de ça, on a continué à évoluer cette pensée, à l'affiner de différentes manières, avec différents concepts. Les académiques vous parleront selon de contrôle réflexif, on vous parlera de guerre de nouvelle génération en fonction de la discipline des gens à qui vous parlez. Et on a une application très forte, il faudrait remonter avant même les élections de Donald Trump, à partir du début de la guerre en Ukraine, dans
voilà,
le Donbass,
ce que vous dites.
En 2014.
2014, vous dites que là, il y a de nouveau une réflexion au sein de l'état-major de l'armée russe, c'est ça ?
Il y a, au-delà d'une réflexion, il y a une mise en application. C'est-à-dire que l'Ukraine, à ce moment-là, donc le Donbass, cette partie des territoires de l'Est, va servir de grand laboratoire à ciel ouvert pour essayer de tenter énormément d'opérations d'influence de différentes natures sur différents canaux, pour cibler différents types de populations. Et on va regarder comment est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et à partir de là, il y aura tout un travail pour intégrer ce que l'on a pu observer sur le terrain, ces déploiements, dans l'approche de la doctrine, notamment du ministère de la Défense russe, mais dans la stratégie globale. Que
donc
l'on
ça va
avoir
se civiliser
Oui, on vous parlera d'ailleurs d'approches de méthodes non militaires, de moyens non militaires qui doivent être déployés. Et on vous dira même en 2019, hein, et c'est quand même un des membres, une des têtes du ministère de la Défense qui dira que les moyens non militaires peuvent même prévaloir sur les moyens militaires, donc être encore plus importants que les moyens militaires dans une conflictualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il a dit en 2019.
Une seule tête à Moscou pour s'intéresser ou centraliser cette nouvelle type de guerre, ou pas ?
Alors, plusieurs bras. Plusieurs c'est bras. Un petit peu comme Shiva ou Kali, hein, les déesses indiennes avec plusieurs bras. On sait qu'on a un intérêt qui est extrêmement fort au niveau de la présidence, donc au niveau de vraiment au niveau du Kremlin. Et on va avoir plusieurs bras armés. Donc certains vont être dévolus au ministère des Armées. On va avoir après différents opérateurs. Je parlais des services de renseignement, s'en sont certains, qui vont pouvoir travailler. On a des opérateurs extérieurs, un petit peu comme on aurait des employés, hein, des prestataires de services. Donc on va avoir des structures plus ou moins autonomes, par exemple la SDA, etc. Et on a même des gens qui vont être missionnés pour mener des opérations avec plus ou moins d'autonomie. On se rappelle de Yevgeny Prigogine, par exemple, qui a été
de Wagner,
qui a été un des gros architectes de beaucoup d'opérations informationnelles. Mais on va avoir d'autres petits, plus ou moins petits acteurs qui correspondent à une feuille de route avec une relative autonomie, ce qui parfois peut donner lieu à des déconvenues ou à des problèmes d'alignement ou en tout cas des agendas pas toujours très bien huilés. Moins maintenant, mais c'était un petit peu plus vrai entre 2014 et 2020.
Donc vous citez évidemment les fermatrolles hein, qui servaient à désinformer. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est passé à quel stade là ?
On pourra toujours avoir de la ferme à troll, j'allais vous dire, un peu traditionnelle, quelque part à l'ancienne. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que ça permet de réduire le temps de production et de réduire le coût de production. Préalablement, si vous vouliez, par exemple, voler un article et puis le transformer, un article dans un journal grand public, et puis le transformer pour qu'il porte votre rhétorique, vous alliez avoir besoin qu'un journaliste à l'éthique douteuse ou que quelqu'un réécrive. Maintenant, non, vous allez pouvoir le mettre dans une IA générative avec un petit prompt, donc les commandes que l'on donne au début. Vous allez demander de prendre un ton sarcastique, moqueur, par exemple, d'ajouter des éléments. Et l'IA va vous le faire en un quasiment claquement de doigts.
Et ils en sont là ? Il y a des opérations avec des IA sur de la vidéo, sur des images ?
Alors, on a plusieurs choses. On a pu voir, pour revenir sur les articles, parce qu'au début, parfois, il y avait des petites erreurs. C'est-à-dire que dans certains articles, il restait des morceaux du prompt, de la commande, dans le titre ou dans le début. Donc là, c'était assez clair. Il y a aussi des méthodes qui permettent de repérer jusqu'à un certain point des productions qui sont gérées par des intelligences artificielles pour le texte. Et puis, il y a toute la contrefaçon d'images. Ouais. Donc là, on va parler de deepfake, donc des contenus synthétiques, mais qui sont hyper réalistes. On parle aussi d'hyper-trucage, où on va pouvoir contrefaire une image, on va pouvoir contrefaire une vidéo, on va pouvoir contrefaire une voix, là aussi dans un temps extrêmement court.
Vous citez des exemples, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a été victime de ça pendant sa campagne, et d'autres, etc. Là, il y a vraiment une efficacité.
Va y avoir une efficacité, c'est quelque chose qui était déjà connu dans le milieu des affaires, avec la fameuse arnaque au président.
Oui, c'est vrai. On se fait passer pour le président qui vous demande de passer un ordre bancaire.
Ouais. En règle générale, le vendredi soir, en toute urgence, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 200 000 euros ou dollars de débité sur votre compte et de perdu. Donc oui, on va avoir ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant une vraie mutation. Pendant longtemps, on allait faire de la deepfake, ces espèces de fausses nouvelles, de la désinformation. Alors, vous avez tous les anglicismes qui vont bien et que je vous passerai. En fait, on essayait de faire croire une population cible à quelque chose de partiellement ou totalement faux. Après, on est arrivé à une deuxième étape où le but, c'est de ne plus croire en rien. Vous n'avez absolument plus confiance en rien. On ne croit plus en rien. Là-dessus, vous n'avez plus prise avec une forme de réalité et vous allez avoir des leaders qui peuvent vous dire « Voilà, moi, je vous propose une vision. Est-ce que vous adhérez à ma vision ?» Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus vraiment besoin de coller à la réalité. Et on a tout cet élément-là. Et le deuxième point que l'on voit aussi, c'est l'utilisation du vrai pour faire du faux. C'est-à-dire, on va prendre un petit élément qui est vrai et on va tisser toute une histoire autour, mais vous allez pouvoir vérifier une partie de l'élément et ça va permettre que ce soit plus persuasif.
Donc, on a vu que la Russie se prépositionnait fortement sur la guerre de l'information, la guerre de la connaissance, etc. Réaction des autres, des États-Unis, de l'Europe ?
Alors déjà, il a fallu prendre conscience que...
Ça a été tardif, c'est ça ?
Ça a été assez tardif dans la prise de conscience, dans l'amplitude de l'action.
D'accord.
Et puis, on a toujours cette vraie question qui est à quel moment est-ce qu'on a quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, qui exprime ses idées ? On est dans une approche démocratique. Et c'est ce que disaient des grands penseurs, je n'aime pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Et ça, c'est bien normal. La problématique, ça a été de s'apercevoir qu'on n'était pas sur une opposition de point de vue à poids égal. Par exemple, vous et moi, on discute, on n'est pas d'accord. Ça arrive. Mais Vous allez avoir quelqu'un qui prend mon identité, ouais. qui vous dit quelque chose, et vous ne savez pas vraiment qui parle, ni pourquoi on parle, et vous ne connaissez pas vraiment l'objectif. Donc, là, on a vraiment tout cette espèce de
brouillard. Du mal à réagir.
On a du mal à réagir, et puis il a fallu avoir des éléments techniques qui permettaient de le faire. C'est ce que fait l'agence Viginum, par exemple, en France, qui ne regarde pas la rhétorique, qui ne regarde pas les narratifs. Elle n'est pas à vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Elle est en train de regarder si techniquement, on a des preuves d'une manipulation. C'est-à-dire si on vous fait croire que des milliers de personnes ont partagé ce contenu, alors qu'en fin de compte, c'est simplement une personne avec des machines, par exemple.
Est-ce qu'on réagit en faisant la même chose ? Donc, est-ce qu'on est offensif aussi ?
Ça a été toute la question. On a eu d'abord une prise de conscience, ensuite une approche qui a été éminemment défensive. Ouais. Alors notamment avec ce qu'on appelle en France les luttes informatiques défensives. Ensuite, on a eu la lutte informatique offensive. Et on est arrivé ensuite à ce qu'on appelle la L2I, lutte informatique d'influence, qui a été annoncée en 2021. Et ce que l'on voit là, c'est le gouvernement qui se dit « je ne m'interdis pas ce genre d'action, mais, et c'est un énorme mais, dans un cadre éthique éminemment strict ». Pas sur ma propre population, pas sur ma propre population, pas sur un pays avec lequel je ne suis pas en guerre. Donc, ne serait-ce que ça, c'est mettre des limites qui sont extrêmement fortes, plutôt que d'aller mener une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre larvée. Et le problème de ce genre de guerre, et on le voit notamment au Moyen-Orient ou sur le continent africain, c'est que vous allez avoir des populations civiles qui en font physiquement les frais.
Merci beaucoup Christine Clément-Dugoin pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.